La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, suite et fin aujourd'hui de notre série en 3 épisodes consacrés au romancier, philosophe et sémioticien italien disparu en février dernier, Umberto Eco. Eco, dont le nom signifie « donné par le ciel », est né en 1932 dans le Piémont. Après une thèse sur l'esthétique chez saint Thomas d'Aquin, il entre à la télévision italienne où il sera chargé durant quelques années de réfléchir à la fabrication de nouveaux programmes. Et puis il devient un professeur de sémiologie et fait de cette matière le centre de sa vie professionnelle avant de se lancer à 50 ans dans l'écriture d'un roman policier érudit dont l'action se passe au Moyen-Âge. Suivront d'autres fictions, le pendule de Foucault, Bodolino ou encore l'île du jour d'avant, et de tout cela nous avons déjà parlé, c'était lundi dernier avec Jean-Noël Schifano. Hier, Paolo Fabri était à ce micro, collègue sémioticien d'Umberto Eco. Il nous a parlé de celui qui était aussi chroniqueur à l'Espresso, professeur à l'université de Bologne et commentateur du Monde par le biais des images qu'il produit. Enfin aujourd'hui, troisième et dernier volet de notre série, nous allons parler des langues d'Eco, lui qui a été beaucoup traduit et qui a été également traducteur, avec en première partie Myriam Bouzaer qui a traduit en français nombre de ses essais, et puis en seconde l'écrivain Laurent Binet qui a fait d'Eco l'un des personnages de son roman La septième fonction du langage. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Nous sommes des êtres fabulateurs, on raconte des histoires, on entend des histoires, c'est un des besoins. Mais il y a une différence entre l'attitude normale, humaine, à entendre des histoires, qui est commune à toute l'humanité, à toutes les civilisations, à toutes les mythes. L'enfant, comme il commence à parler, veut entendre des histoires. Le fait de raconter des histoires, tout le monde raconte des histoires. On ne s'en aperçoit pas, mais de « Ah, comment ça va ? Ah, si tu savais ce qui s'est passé ce matin, je suis sorti et tout à coup, on raconte une histoire. » On ne s'en aperçoit pas, mais si tout à coup, il y avait une loi qui nous interdisait de raconter des histoires, notre vie deviendrait quelque chose d'invivable.
Bonjour Myriam Bouzaer.
Bonjour.
On raconte toujours des histoires, dit Umberto Eco, et c'est même une nécessité pour l'homme. Et lui d'ailleurs, il s'était mis à écrire Le nom de la rose, son premier roman, parce que ses enfants avaient grandi et qu'il ne pouvait plus en inventer pour les lui raconter.
Oui, il avait écrit des textes pour Stefano. Il avait fait un texte sur la nécessité, c'était pourquoi j'achèterais des armes à mon fils. C'était bien avant Le nom de la rose. Et il avait conscience qu'il fallait raconter aux enfants. Et il est devenu, je crois, l'homme le plus heureux du monde quand il a pu recommencer à raconter des histoires à son petit-fils, Emmanuel. Dans un moment extrêmement émouvant, Emmanuel, à la cérémonie à Milan, a raconté combien il avait été sensible à ce grand-père qui lui apprenait, qui lui racontait des histoires et avec qui il faisait des mots croisés, parce que l'énigme des mots croisés était quelque chose qui le séduisait beaucoup. Et on reconnaît là le questionneur, l'infatigable questionneur du monde que Eco a été, aussi bien dans les choses les plus petites, comment voyager avec un saumon, est farci d'observations extrêmement aiguës et drôlatiques sur le monde comme il vient et comme il va, lui qui effectivement a voyagé, a fait 15 fois le tour du monde. Et c'est c'est cela qu'il raconte à la fois dans les boustines, ce qu'on a appelé ce sont les rubriques, et en même temps dans les textes sémiotiques où il analyse comment le monde se dit à travers la sémiotique, comment, alors, bien évidemment, comment on traduit comment on passe, par exemple, d'un roman à un film, comment on décrit un tableau, et comment les mots nous permettent de dire, mais quel mot ? Et comment on passe d'une langue à l'autre ?
Alors c'est tout le sujet.
C'est tout le sujet
de tout ce qu'on va dire pendant la première partie de cette émission. Vous utilisez le verbe raconter, y compris pour parler des essais, parce que pour Umberto Eco, il fallait aussi raconter la non-fiction, raconter pas seulement les romans.
Alors c'est disons que lui avait il avait la passion de la clarté. C'est-à-dire que c'était tout sauf un jargonnant. C'était un professeur, donc il avait envie d'être compris, y compris dans ses essais les plus abscons. Et c'était donc il a pas fait le storytelling de la sémiotique, mais quand même, il avait besoin de s'accrocher toujours à des exemples. Il avait un côté pragmatique qui lui permettait de raconter les choses afin que le lecteur, fût-il le plus cultivé, puisse s'ancrer dans ce savoir-là.
Mais est-ce qu'on ne lui a pas reproché ça, justement ? Vous prononcez le mot de storytelling, qui est un mot qu'on peut critiquer.
Absolument.
Lui ne se méfiait pas des histoires, il ne se méfiait pas... En plus, ayant fait partie à un moment donné de l'avant-garde, où peut-être que les histoires n'étaient pas tellement valorisées, voilà, son rapport à la narration.
La narration, il a écrit des textes fondateurs là-dessus, sur la différence entre la stratégie discursive et la stratégie narrative. Moi, j'ai travaillé sur ces textes-là, qui sont des textes fondateurs, comprendre comment on fait la différence entre la stratégie discursive. Je donne des faits, je dis objectivement ce qui s'est passé, l'heure, le lieu, la date. Et puis à partir du moment où j'ajoute un adverbe, où je mets un mot emphatique, je passe de la stratégie discursive à la stratégie narrative. Et il a toujours lutté contre l'idée que d'écrire le monde, quand on est journaliste, ça n'est pas à faire la narration du monde. Et ça, c'est nécessairement passer par le discours, le discursif, pour éviter ce que la plupart des journalistes font. C'est-à-dire, ils prennent un angle de lecture, même les photographes, ils prennent un angle, une vision, un champ, pour dire quelque chose. Et après, quand on décale le champ de vision, on voit que c'est autre chose. Il a très clairement théorisé la différence entre le discursif et le narratif. Il a très clairement théorisé et montré que l'irruption du narratif était de plus en plus envahissante dans le discursif.
Mais pourtant, il utilise la narration, y compris dans ses essais. Quand il dit, par exemple, moi, quand je fais une enquête, c'est-à-dire une enquête avec une problématique, je peux raconter, et c'est ce qu'il a fait dans sa thèse sur saint Thomas d'Aquin, les différentes étapes de ma réflexion, parce que je raconte l'enquête qui m'a amené à la conclusion à laquelle j'arrive. Et il explique que ça, on lui a beaucoup reproché. On lui a dit, mais non, il faut aller directement aux conclusions.
Mais ça, c'est le chercheur qui raconte sa quête de l'histoire. Par exemple, vous savez, dans dire presque la même chose, il a fait, à mon avis, un livre fondateur sur la traduction. Mais il a voulu que ce ne soit pas un livre de traductologie extrêmement savant. Il a voulu partir d'expériences, de ses propres expériences en tant que traducteur, de ses propres expériences en tant qu'auteur traduit dans 50 ou 60 langues. Et de là, il a écrit ce texte. Et qui permet, à mon sens, mais je me trompe peut-être, qui permet, à mon sens, d'entrer de plein pied dans qu'est-ce que la traduction ? Dire presque la même chose, nous sommes sur l'idée de qu'est-ce que c'est que ce presque. Alors déjà, il dit dire, on ne sait pas ce que c'est. Chose, c'est indéfini. Même, va savoir ce que c'est que le même. Et surtout, presque, toute la traduction
tient dans
sur
ce
le
mot-là.
Presque.
Qu'est-ce que c'est que ce presque ?
L'élasticité de ce presque. Et moi qui suis sa traductrice, il m'a permis non seulement de traduire ses textes à lui, mais surtout d'appliquer cette traduction, ces préceptes dans les traductions d'auteurs romanesques que je fais. Et ça m'est d'un très grand secours.
On va parler de ça et de ce qu'il a pu vous apprendre, vous, en tant que traductrice et aussi à son contact. Mais je voudrais qu'on parle d'abord du premier livre de lui que vous avez traduit. Ça s'appelle « Lector in Fabula ». C'est paru chez Grasset en 1985. Et c'est une réflexion sur la place du lecteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ?
Ça est un texte fondateur. C'est tout simplement de la pragmatique de texte. Je signale que Eco raconte qu'ils se sont envoyés avec Calvin, ils se sont envoyés à peu près en même temps avec une dédicace pour chacun. Calvin aussi par Une nuit d'hiver, un voyageur, et Eco, Lector in Fabula. L'histoire de la lecture, c'est une équation à trois, non pas inconnues, mais personnages. Que fait le lecteur ? Le lecteur doit faire une... Il a la nécessité d'être un coopérateur et de faire une coopération interprétative du texte. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je prends le titre de fameux film, je crois que c'était Truffaut, « La mariée était en noir ». Si je n'ai pas ce que Eco détermine, appelle la compétence encyclopédique pour désambiguiser le monde, pour lire le grand livre du monde. Comment est-ce que je peux savoir que la mariée était en noir n'est pas uniquement une indication de couleur, mais comment est-ce que je peux savoir que le fait que la mariée soit en noir contrevient à la règle qui veut que la mariée soit en blanc et que donc c'est signifiant ?
Donc il y a une coproduction, évidemment, par le lecteur du sens. Est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau à cette époque-là, quand ça paraît, alors en France, en 1985, vraisemblablement beaucoup plus tôt en Italie, qu'est-ce qu'il apporte en plus par rapport à ce qu'on sait déjà, finalement, sur ces questions ?
Peut-être ce que son livre a apporté, c'est l'exemple final du texte, c'est... quand, à la fin de Lector, il analyse un drame bien parisien. Comment on fait des inférences ? Comment un texte s'amuse, un auteur, plus ou moins pervers, s'amuse à balader, si vous me permettez cette expression, son lecteur ? Comment, en lisant le drame bien parisien, si vous le lisez, vous vous rendez compte que chaque fois, vous êtes, par aller, embarqué dans une hypothèse, dans une inférence que vous faites, ah ben non, c'est pas ça du tout. Et c'est la mise en lumière l'exemplification, pour prendre un texte de Machiavel, c'est l'exemplification de ces théories de pragmatique de texte qui existaient déjà, mais qui ont été, pour moi, lumineuses, et je pense pour beaucoup de lecteurs.
J'ai travaillé toujours beaucoup, avec beaucoup de goût, avec mes traducteurs. Mais ce qui est curieux, lorsque les traducteurs étaient intelligents, même avec les traducteurs de langues que je ne connaissais pas. Je travaille très bien avec les traducteurs japonais, avec la traductrice russe, les traducteurs hongrois, etc. Je ne connais pas la langue, mais j'ai une idée. Je sais très bien que j'ai... Si je parle avec le japonais, il y a un problème de passage d'une langue alphabétique à une langue idéographique. Voilà, j'ai une idée de ce qui se passe. Et donc, je peux discuter avec eux. Et alors, suivre le travail des traducteurs dans ces différences-là, c'est un boulot très amusant, bien que parfois affolant, parce que vous avez 40 traducteurs. Heureusement, il y en a ceux qui ne sont pas en contact avec moi, alors je ne sais pas ce qui se passe en coréenne, ou même en chinois,
Vous écoutez la Compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons d'Umberto Eco avec Myriam Bouzaer qui a traduit beaucoup de ses essais. C'est formidable ça quand on est traducteur comme vous, j'imagine, d'avoir en face un auteur qui pense à vous autant que Umberto Eco a pensé à ses traducteurs.
Il lui arrivait même d'écrire des textes pour les essais et de mettre pour le traducteur deux points et de donner une indication. Alors, il l'a fait dans ses romans. Ce qui était essentiel pour lui, et ça, c'est vraiment une chose qui, moi, m'a appris beaucoup, c'est quand le lecteur lit un texte français, il doit ressentir la même chose que le lecteur qui lit un texte dans le texte italien. Je m'explique. Il me disait... Si le texte, il tenait beaucoup à l'idée du souffle et du rythme, et là, il l'a évoqué beaucoup dans l'apostille au nom de la rose que j'ai traduite. Et il dit, par exemple, pour les dialogues dans l'escalier de l'abbaye, il a dessiné son abbaye. Il sait exactement le nombre de marches qu'il y a. Et il savait que son dialogue devait s'arrêter là, au moment de la fin de la marche. Donc, il a rajouté quelque chose du dialogue. Et c'était donc un dialogue aussi de quelqu'un, quand on descend des escaliers, on est un peu haletant. Eh bien, en français, et ça, Schifano l'a très bien fait, c'est
donc
effectivement...
Donc, le traducteur pour les romans.
Le traducteur pour les romans, d'avoir le même rythme. Il raconte que... il avait un problème parce que quand on a un texte qui finit en italien avec la voix qui tombe, il fallait retrouver en français un texte avec la voix qui tombe. Et si vous employez en français, en italien, un texte, mais qui en français est traduit par un terme que le grand public ne connaît pas, qui n'est pas très courant, qu'est-ce qui se passe ? Vous plongez votre lecteur dans une sorte de déstabilisation parce qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Or, dans le texte français, dans le texte italien d'origine, l'auteur n'est pas déstabilisé. Donc, l'auteur doit être dans le même état dans la traduction que dans le texte original.
Mais lui qui parlait parfaitement français... Il devait relire ses traductions en français.
Il relisait tout.
Et donc, il vous faisait des commentaires ?
Alors, j'ai eu le...
Il aurait pu traduire lui-même, d'ailleurs, en français, ses propres
textes. Non, parce que je crois qu'en français, il n'aurait pas écrit de la même façon. Vous savez, les écrivains qui ont deux langues
ont des traducteurs. On traduit toujours vers sa
langue. Oui, et puis parce qu'on n'écrirait pas. Vous savez, quand on a deux langues, même au point de vue fatigue, quand vous parlez, vous n'avez pas la même voix en français que dans l'autre langue, ou quand dans votre langue natale.
On pense même différemment dans une autre
langue.
On
pense différemment, et voilà, c'est une tarte à la crème de dire qu'effectivement, on écrit avec un monde. Moi, la Bible, pour moi, en tant que traductrice, c'est, je l'enseignais à mes étudiants de Cagnes, c'était les mots ouvrent des mondes. Et ça, on peut s'amuser. Moi, je peux m'amuser maintenant à vous dire un monde. Il ouvrira en vous quelque chose. Je faisais souvent ça avec mes étudiants et quand j'étais plus jeune, je disais le mot saloon. Alors évidemment, immédiatement, ils avaient les portes battantes du saloon. Puis j'ai dû arrêter parce que mes élèves avaient rajeuni et moi j'avais vieilli. Et ils n'avaient plus jamais vu de western. Donc il a fallu que je change. Donc les mots ouvrent des mondes. Traduire, c'est ouvrir les mêmes mondes que ceux que l'auteur a ouverts, fût-ce avec des mots différents. C'est ça la Bible.
Et c'est ce que Umberto Eco également s'employait à faire, car lui-même était traducteur.
Bien sûr.
J'ai traduit même Sylvie de Gérard de Nerval. Un autre livre que j'ai continué à lire, y réfléchir dessus pendant 40 ans. Et c'est seulement en les traduisant que j'ai découvert que le lexique de Nerval est très pauvre. Ils emploient plusieurs fois le même mot. Rose, je trouvais. Non. Et la tentation du traducteur, ce serait de varier chaque fois. Tandis que non. Si le lexique est pauvre, il doit rester pauvre. Le plus grand romancier italien du 19e, Alessandro Manzoni, l'auteur de Fiancé, on a vu qu'à la fin, avait un lexique très pauvre. Et peut-être c'est là son charme. Donc, mais on le comprend seulement en traduisant. En lisant, on lit et on ne fait pas attention au fait qu'il a nommé, qu'il a employé le mot « rose » à distance de 2-3 pages. Mais à la fin, lorsqu'on découvre qu'il a employé plusieurs fois, mais c'est seulement en traduisant.
Comment elles étaient, Myriam Bouzaer, les traductions de Umberto Eco, parce que j'imagine que vous avez dû aller lire Sylvie de Nerval dans la traduction d'Eco pour voir comment il faisait.
Je ne vous surprendrai pas en vous disant quels mots, alors je ne veux pas dire bluffé, mais quels mots vraiment intéressé. Parce que toute la réflexion derrière, par exemple, il dit comment traduire une chaumière. Maison avec un toit de chaume. Et là, en italien, comment faire pour trouver le mot juste ? Comment traduire le tissu, une indienne ? Et c'était perpétuellement des questions, c'est-à-dire, si j'emploie tel mot en italien, quel monde est-ce que cela va ouvrir ? Donc, moi, d'abord, je ne me permettrai pas, je crois, de les juger, mais je les ai admirés. Et ce que j'ai admiré aussi, c'est la traduction de Queneau, où là, il s'est vraiment amusé. Et on en a ri ensemble, tous les deux. C'est-à-dire qu'il lisait ça et on riait tous les deux.
Oui, parce que ce n'est pas n'importe quoi de Queneau, c'est les exercices de style. Les exercices de style, c'est à peu près précisément intraduisible parce que travailler précisément avec la langue française. Au départ, il avait peur de se confronter à ce texte-là. Il ne voulait pas le traduire.
Oh, je crois que ça l'a tellement amusé de le faire. Moi, quand je l'ai rencontré la première fois, je suis allée avec mon manuscrit sous le bras à Milan en 84, mois d'août 84. C'était le 15 août, dans une Milan déserte, et je suis arrivée avec mon manuscrit sous le bras. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, donc on se trimballait. Je n'avais même pas de double de mon texte, j'étais traductrice innocente. Et d'abord, quand je suis allée le voir, je n'oubliais pas qu'il était le Umberto Eco auréolé du succès du Nom de la Rose. Donc je vais vers lui, et la première question...
Que vous aviez lu.
Oui, bien sûr. La première question qu'il m'a posée, c'est « Comment avez-vous fait pour me reconnaître ?» J'étais un peu interloquée de la question. Je lui dis « Mais tout simplement parce que... » D'abord, je l'ai eu un peu parce que je lui dis « Parce que j'ai eu le bonheur de vous voir venir nous faire une conférence à Paris 3 quand j'étais jeune étudiante. » Il était venu faire une conférence sur la sémiologie, la gestuelle italienne. Et je dois avouer, je me souviens avec un grand bonheur d'avoir vu un auteur, un spécialiste d'une quarantaine d'années qui était tout sauf dans la componction de son savoir à balancer d'en haut. Vous savez, la plupart des gens qui viennent nous faire des conférences sont en général très descendants. Lui nous racontait avec une allégresse, la façon dont on pouvait lire la gestuelle italienne. Et je me suis dit que...
J'imagine qu'il faisait lui-même des gestes.
Non seulement il faisait des gestes, mais il sautillait. Enfin, c'était nous, on était là, on n'avait même pas 20 ans. Et on le regardait et on s'est dit, c'est ça la vraie culture. Et quand je l'ai rencontré plus tard, je lui ai dit, tu sais, je t'ai vu quand tu n'étais pas encore Umberto Eco. Et donc, c'est pour ça que je t'ai reconnu. Mais je suis arrivée avec ce texte et on a travaillé tous les deux dans une sorte de folie, lisant, vérifiant sur le texte italien, moi lisant à haute voix ma traduction. Et ça a donné, pendant 3 jours, on a été ivres de travail à la fin, mais en même temps, ça a donné quelque chose. On a pris la mesure l'un de l'autre, et moi, j'étais pétrifiée.
Il faisait ça avec tous ses traducteurs ?
Non, c'était
parce
la première fois
qu'il quand même, il y en avait un certain nombre.
Oui, mais là, je ne sais pas pourquoi, l'Hector, il y tenait. Il tenait à cette traduction française. Comme il tenait à ses traductions anglaises et allemandes, mais en même temps, bon, pareil, il parle parfaitement l'allemand, il parle parfaitement l'anglais. Donc, voilà. Il avait il prenait le soin de vérifier. Et puis après, il y a quelque chose qui s'établit, qui s'appelle la confiance, et qui fait que, voilà, on s'envoyait des textes et c'était tout.
J'étais tombé amoureux il y a 30 ans, c'est pas lorsqu'ils sont parus, des exercices de style.
Umberto Eco.
Pas seulement pour l'anagramme, le pastiche, la parodie, etc. Mais parce que j'ai pensé que l'exercice de style était un manuel de sémiologie. Il démontrait tous les problèmes abstraits de la rhétorique. Et comme tel, je l'ai employé dans plusieurs cours. Un jour, pour m'amuser, j'en ai traduit quelques morceaux, et alors ça a été Italo Calvino qui m'a dit « Pourquoi tu ne le traduis pas ?» J'ai dit « C'est trop difficile. » Et en effet, je l'ai laissé là, je sais pas, 15 ans, chaque 6 mois, j'en traduisais un morceau. Parce que le problème intéressant des exercices de style est qu'ils sont intraduisibles. Au moins, il faut en distinguer. Il faut distinguer. Il y en a ceux qui jouent sur des structures logiques, et donc ils peuvent être traduits. Et ceux qui jouent sur des structures linguistiques, même phonétiques, et qui ne peuvent pas être traduits tels qu'ils sont. Donc, il s'agissait de devenir le plus possible Raymond Queneau soi-même, et se dire qu'est-ce qu'ils auraient fait Raymond Queneau s'il avait écrit en italien.
Voilà l'illustration de ce qu'on disait à l'instant, Myriam Bouzaer. Il nous reste quelques minutes avant la chronique de la mi-émission. J'aimerais qu'on dise un mot sur Le beau et le laid, qui est aussi un ouvrage que vous avez traduit et qui a une place, à mon sens, importante chez Umberto Eco, qui commence sa carrière avec une thèse sur l'esthétique chez Saint-Thomas d'Aquin, qui la poursuit avec Art et beauté dans l'esthétique médiévale. Qu'est-ce que c'était pour lui ce problème, cette question de la beauté et de l'esthétique ?
Je ne sais pas si c'était un problème ou une question, c'était en tout cas une envie de tordre le cou à certaines images fixes. Le beau doit être joli, et il racontait toujours que pour le crapaud, la plus belle des personnes, c'est sa crapaude. Donc, il a introduit l'idée de la relativité de la beauté, et puis il a fait un travail d'historien. Alors, pas historien au sens où le serait un historien de l'art, mais il est allé chercher, depuis, dans l'histoire de la beauté et après dans l'histoire de la laideur, il a mis en perspective les différents siècles. Il a fait se croiser, se rencontrer les différentes théories aussi, pour montrer à quel point certaines se heurtaient ou combien certaines se complétaient. Et l'histoire de la beauté est quelque chose qui lui tenait à cœur, qui l'a beaucoup amusé, qui nous a, nous, rendus fous pour le traduire, parce que les références, de toute façon, traduire Eco, c'est de la folie, parce que ce sont des recherches infinies. Mais en même temps, il avait envie de tordre le cou à... voilà, il a toujours eu envie de tordre le cou aux évidences. même si parfois il aimait bien les rappeler.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Myriam Bouzer, vous restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons accueillir l'écrivain Laurent Binet, auteur de La septième fonction du langage, un roman dans lequel apparaît Umberto Eco. Mais tout de suite, dans la compagnie des auteurs, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe du côté des revues, aujourd'hui du côté de la Nouvelle Revue Française, avec son directeur, Michel Crépu. Bonjour Michel.
Bonjour.
La NRF toujours en librairie et dans laquelle, c'est la NRF numéro 620, septembre 2016, et dans laquelle se trouve un article de Frédéric Schifter qui revient sur la notion d'élégance et de discrétion telle que pensée par Balthazar Gracian.
Oui, en effet, c'est un projet d'article qui est venu d'un premier projet qu'on a abandonné en route, qui était de se lancer dans un énorme dossier sur la question de l'élégance dans l'acte de penser.
Et pourquoi vous avez abandonné ce beau projet ?
Parce que Frédéric Schifter m'a envoyé son texte, le premier. Je l'ai lu, évidemment, dès que je l'ai reçu. Je l'ai trouvé absolument magnifique. Et je me suis dit que c'était, comme les autres étaient en retard, que c'était un petit peu compliqué de constituer une chorale. J'ai décidé que finalement, ce texte se tenait très très bien tout seul. Et il sera suivi dans d'autres numéros de textes sur ce thème également, qui m'est cher. Et voilà. Donc, mais ça me semblait... une sorte de courtoisie à son égard.
Une sorte d'élégance, quoi.
Oui, effectivement.
Alors justement, dites-nous un petit peu ce que raconte cet article qui est en effet très
passionnant. La question de l'élégance, et c'est pour ça que Gracian est évidemment quelqu'un qui compte beaucoup, c'est la question de la forme et de la manière dont on aboutit quand on est dans le contexte de l'expérience artistique, mais pas seulement, aussi de l'expérience philosophique ou littéraire, bien entendu, il y a un enjeu de forme. Et l'enjeu de la forme, évidemment, entraîne avec lui le souci de l'élégance. Alors, l'élégance, évidemment, c'est pas simplement avoir une belle veste ou être bien coiffé comme moi.
Vous avez une magnifique cravate. Mais nous allons la prendre en photo et la poster sur notre fil Twitter.
Mais surtout, c'est plus profond que ça, parce que ça entraîne aussi une morale, ça entraîne toute une réflexion sur l'attitude et donc la relation au monde que l'on instaure en se comportant et en se formant de telle ou telle manière. Donc c'est en définitive un sujet, je crois, extraordinairement profond et important.
Et le titre de cet article, c'est Balthazar Gracian, martyr de l'élégance. Est-ce que c'est son élégance qu'il a perdue en définitive ?
Peut-être que Schifter répondrait mieux que moi à cette question redoutable, mais peut-être que Gracian a vu dans la méditation de l'élégance une forme d'expérience mystique, presque mystique, qui évidemment peut mener loin ou plus loin qu'on l'imaginait au départ. Donc c'est pas impossible qu'il ait eu une expérience un peu inattendue de ce côté-là.
Également dans la NRF, le grand retour, nous l'attendions, Michel, de votre journal littéraire que vous aviez abandonné et que vous reprenez faveur d'une inspiration nouvelle.
Je ne l'avais pas abandonné, mais j'avais débranché, parce que j'en avais un petit peu marre, j'avais envie de faire autre chose. Et puis l'envie est revenue, et je trouve, moi j'adore, enfin je suis un gros lecteur de journaux, j'adore ça, et donc... on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et donc, l'idée de redémarrer une espèce d'herbier, pour moi, c'est un peu un herbier.
Donc, vous y racontez vos lectures, vos rencontres avec des écrivains.
Oui. Et puis, enfin, oui, tout à fait. Des toutes sortes de choses qui peuvent venir alimenter cet herbier, avec toujours plus ou moins un lien au livre, mais pas forcément. C'est pas forcément.
Non, vous expliquez que vous avez deux bureaux.
J'ai un bureau à la NRF, un bureau sérieux, et puis un deuxième bureau, c'est les quais, les bouquinistes, que je vois tous les jours. Tous les jours, je remonte en quittant le bureau, mon premier bureau. Je remonte la rue de Beaune et j'arrive au Quai Voltaire. Et là, il y a le premier bouquiniste qui démarre au Quai Voltaire. Et je remonte, quand j'ai le temps, mais en général, je prends le temps parce que c'est un enchantement. Je remonte la Seine jusqu'à l'Institut du Monde Arabe où là, j'attrape un bus qui m'emmène chez moi. C'est une autre histoire.
Voilà. Et le résultat de ce travail dans chacun de vos bureaux peut être lu dans la NRF numéro 620. Bayard s'approche du barbu qui essuie symboliquement son pantalon car la pisse a déjà imprégné le tissu et sort sa carte. Monsieur Eco, police française. Eco s'agite. La police, il fallait arrêter le hippie alors. Puis, considérant le public d'étudiants gauchistes qui peuplent la drogueria, il décide de poursuivre sur ce terrain. Bayard lui résume les raisons de sa présence. Bart avait demandé à un jeune homme de le joindre en cas de malheur, mais le jeune homme est mort avec son nom sur les lèvres. Bonjour Laurent Binet.
Bonjour.
Vous avez publié il y a quelques mois, c'était en 2015, un roman intitulé « La septième fonction du langage » dont je lisais ici un très court extrait. C'était aux éditions Grasset, un livre qui a été couronné par le prix Interallié. Et c'est un roman dont le sujet est la sémiologie, c'est-à-dire, je cite votre narrateur, « un truc très étrange ».
Oui, l'idée de départ, c'était la mort de Bart. J'avais envie de faire une enquête policière à partir de la mort de Bart, qui est mort dans un accident. Je voulais imaginer que c'était un assassinat. Et puisqu'il était sémiologue, je me suis dit que j'allais utiliser cette science ou cette discipline partie prenante ou voire comme moteur ou comme motif de l'intrigue. Puisque, après tout, je me suis dit que cette science des signes, cette linguistique qui déborde le texte pour s'appliquer au monde, cette science du décodage, finalement, c'était la science de Sherlock Holmes, et que donc, la sémiologie allait aider à résoudre l'enquête que j'avais, l'intrigue que j'avais échafaudée.
Et votre narrateur rappelle que c'est Ferdinand de Saussure qui a eu l'intuition de ce truc très étrange dans son cours de linguistique générale en 1906.
Oui, absolument. Mais il se trouve aussi que, donc, outre Barthes, Umberto Eco était aussi un sémiologue. Et donc, la présence d'Umberto Eco, elle se justifiait à plus d'un titre dans mon livre. D'abord parce que c'était un ami de Barthes et que donc l'enquête se déroule dans l'entourage de Barthes. Et puis aussi, justement, parce que c'était un sémiologue.
Est-ce que vous avez relu les essais de Umberto Eco en préparant ce livre? Et puis, est-ce que vous avez relu aussi les romans? Enfin, quel était votre rapport et comment a-t-il évolué avec Umberto Eco?
Oui, moi, je suis rentré... découvert Umberto Eco d'abord par ses j'ai vu le film Le Nom de la Rose quand j'étais adolescent, mais j'ai d'abord rencontré Umberto Eco par ses essais. Et en effet, je suis d'accord pour dire que l'essai majeur, c'est vraiment Lector in Fabula. Et en plus, pour moi, c'était vraiment le plus important, puisque tous ces développements sur les théories des mondes possibles, etc., rejoignent vraiment mes problématiques qui tourne toujours autour du rapport entre la réalité et la fiction. Ceci dit, Je me suis pas rendu compte, je vous jure que c'est vrai, que en fait le pitch de mon livre était celui du nom de la rose, un manuscrit secret, un document secret que tout le monde recherche et pour lequel on tue. c'est à la fois le pitch de la septième fonction du langage et du nom de la rose. Donc,
sauf que c'est pas le même livre en fait.
C'est pas le même document, mais d'une certaine manière, j'étais content de payer ma dette, même si je m'étais pas rendu compte à l'époque. De son ampleur, de payer ma dette en lui offrant un rôle important, un des rôles les plus importants finalement de mon livre.
Alors qu'est-ce que vous en retenez de ce lecteur in fabula? Avant l'émission, vous discutiez avec Myriam Bouzer qui l'a traduit. Qu'est-ce que vous en gardez de ce roman important quand même?
Alors ce que j'aime dans ce livre et d'une manière générale dans la façon de raisonner de Umberto Eco, c'est qu'il a toujours une approche très ludique de problèmes extrêmement profonds et souvent ontologiques. Là, donc, je feuilletais avant de venir. Il cite l'un de ses amis qui lui dit « Bon, moi, j'existe, Emma Bovary, non. » Bon, bah, tout de suite, ça nous plonge dans des abîmes de réflexion ontologique. C'est totalement vertigineux.
Et vous, Myriam Bouzer, vous avez lu, je crois, la septième fonction du langage. Alors, est-ce que vous l'avez lu parce que Eco était dedans?
Pas du tout. Je l'ai lu parce que j'avais envie le titre, la septième fonction du langage. Même si Eco n'avait pas été dedans, je l'aurais lu parce que je savais à quel point Eco avait coutume de dire, quand on prend les écritures sacrées, au commencement était le Verbe, que la lumière soit et la lumière fut. Et il disait, tout auteur est quelqu'un, est un dieu désespéré qui espère recréer un jour le monde qu'est la Bible, puisque la fonction est la fonction, le Verbe est création. Et on en a beaucoup parlé de cela. Et donc je l'ai lu et je voulais remercier publiquement Laurent Binet des jours délicieux qu'il m'a fait passer au bord.
Comment
de la
ça, des jours? Mais ça se lit dans la nuit?
Non. Moi, quand j'aime un livre, je fais attention à ne pas le dévorer parce que sinon je suis dans le deuil de la faim. Donc j'ai fait attention à aller nager, marcher, etc. et lire un petit bout à chaque fois. Et je voulais le remercier parce que ça m'a renvoyé à ma jeunesse, à tous les personnages qui étaient là, et à toutes les problématiques qui est j'existe et Madame Bovary, non. Et pourquoi? Alors que Madame Bovary existera toujours, même si moi, je suis mort.
On va rentrer un peu davantage, un peu plus précisément dans ce livre. Donc il y a tout un tas de personnages célèbres dans votre roman, Laurent Binet. Il y a par exemple Tsvetan Todorov, l'auteur de l'essai Typologie du roman policier. Et ce n'est pas un hasard, car c'est un roman policier. Le nom de la rose est aussi un roman policier.
Oui, j'aime bien cette circularité, si vous voulez, cette intertextualité où mon personnage, Simon Herzog, a les initiales de Sherlock Holmes. Umberto Eco est un personnage de mon roman. Lui-même, Umberto Eco, avait utilisé Guillaume de Baskerville dans Le Nom de la Rose, qui était également...
Donc ça, encore une fois, vous ne l'avez pas fait exprès, hein. Vous vous en êtes rendu compte après?
Non, si, quand même. Si, ça, si, oui. J'avais bien en tête, oui. Quand même. Oui. Voilà, c'est-à-dire, j'aime bien jouer avec les frontières de ces mondes possibles avec le monde réel. Par exemple, l'un de mes personnages, c'est Maurice Zapp. Maurice Zapp est un personnage de David Lodge dans sa trilogie là sur les facs américaines, qui lui-même s'inspire d'un véritable universitaire américain qui s'appelle Stanley Fish. Et en fait, je fais dire au personnage fictif Maurice Zapp des phrases qui ont été prononcées par le véritable Stanley Fish. J'aime bien cette espèce de jeu circulaire. Et en cela, je m'inscris aussi dans l'héritage de Umberto Eco.
Donc il y a aussi
par exemple Umberto Eco. Là, typiquement, ce qui m'amuse et ce qui me passionne chez Umberto Eco, c'est quand il pose des questions de type mais qu'est-ce que ça veut dire si on dit il est faux de dire que Sherlock Holmes était marié. Parce que Sherlock Holmes avait pas de femme, il était pas marié. Mais comment ça? De toute façon, Sherlock Holmes, il a pas à avoir une femme. C'est une structure, c'est un personnage de papier. Donc voilà. Alors ensuite, ça engage d'autres problématiques de philosophes du langage tels que Searle sur les affirmations feintes. C'est-à-dire, on n'est pas dans le mensonge, on n'est pas dans le faux ou dans le vrai, mais parce qu'on est dans un autre régime qui est le régime de la fiction. Mais le régime de la fiction, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il a une force telle que il concurrence le régime du réel. Et comme vous le disiez, c'est vrai qu'à la fin, Julien Sorel, il a probablement plus de réalité, et il en aura encore longtemps nous trois réunis,
beaucoup de gens réels. On peut pas la démentir. La fiction, c'est ce qu'il y a d'écrit. Donc, effectivement, on est plus dans la réalité,
ouais,
dans la fiction.
C'est compliqué. Et pourtant, il y a des il existe. Il y a des falsifications qui sont. C'est très compliqué. Et c'est pour ça que c'est des questions qui me passionnent. Et par exemple, moi, ce qui m'avait intéressé. Et ça, je l'avais expliqué. Je l'avais rencontré Umberto Eco. Il avait tout de suite compris. Ce qui m'avait amusé dans le livre, c'était que Umberto Eco, en tant que personnage, rencontre mes enquêteurs. Mes enquêteurs lui font part de leur enquête et ça lui donne l'idée du nom de la rose. C'est-à-dire que là, j'avais inversé le rapport donc à la fois chronologique et de cause à conséquence entre son livre à lui que moi, auteur réel, j'avais lu, et puis l'intrigue fictionnelle qui est vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce que je vous explique très très confusément là, lui, je lui avais expliqué, évidemment, en 30 secondes, il avait compris, il avait dit, ah d'accord, et donc c'est eux qui vont me donner l'idée du nom de la rose. Bon, ça l'avait amusé. Alors,
donc il connaissait le projet de la 7e
Ouais, j'en avais parlé, et puis je lui avais posé des questions sur sa vie à Bologne.
Qu'est-ce que vous lui aviez demandé?
Des détails, si vous voulez. Quel vin il buvait? J'étais allé enquêter, d'ailleurs. L'extrait que vous avez lu tout à l'heure est tiré d'une anecdote réelle racontée par un barman d'une des brasseries où il avait l'habitude d'aller, où un jour un étudiant arrive et puis il lui pisse sur les chaussures. Bon, et Umberto Eco, c'était bon. Alors, et parce que apparemment à l'époque on lui reprochait de pas être, dans les années 70-77, vous voyez, à Bologne, on lui reprochait de pas être assez politisé. Enfin bref, donc c'était une anecdote qui avait suffisamment amusé le serveur pour qu'il s'en souvienne. Ce qui était drôle, c'est que le serveur 25 ans après était toujours le même, et puis que le serveur, comme j'avais l'impression, tout le monde à l'époque avait fait des études de sciences politiques dans la Bologne de l'époque. Mais donc voilà, j'avais demandé aussi quel vin il buvait, comment se passaient ses journées, qu'est-ce qu'il enseignait, quels étaient les sujets sur lesquels il travaillait à l'époque, donc des détails en fait, des détails de...
Et est-ce que vous lui avez parlé de votre expérience de lecture de ses romans? Est-ce qu'on peut vous demander si vous aimez Le Nom de la Rose,
bien sûr,
roman?
Bien sûr. Alors et plus, c'est vrai qu'au début, je m'intéressais plus à lui en tant que théoricien, en tant que mais là, je relis en ce moment le Nom de la Rose. C'est vrai que c'est formidable à plus d'un titre. Mais donc, on le présente toujours comme un érudit. C'est vrai que c'est une de ses caractéristiques principales. Mais c'est un érudit ludique, si vous voulez. Et c'est vrai que, enfin, ce qui est formidable avec un roman comme Le Nom de la Rose, c'est à quel point il fait un page-turner, mais qui parie sur l'intelligence du lecteur. C'est-à-dire qu'il, c'est l'anti-Da Vinci Code, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est le...
Oui, il
n'aimait pas
Da Vinci
Code,
pour les compares, d'ailleurs.
Mais pas pour les nuls, justement. C'est vraiment ne parier sur l'intelligence du lecteur. Et à l'arrivée, ce qui pourrait être ultra élitiste, c'est un best-seller mondial. C'est-à-dire que c'est un pari réussi, quoi. Donc c'est une jouissance à lire. Et puis, d'un point de vue moral, c'est formidable, si vous voulez.
Donc, je le disais, on trouve, hormis Tsvetan Todorov, Michel Foucault, Philippe Solers, Julia Kristeva, Jean Edernalier, dans votre roman, et aussi Jacobson. Vous pouvez peut-être nous rappeler un petit peu de qui il s'agit, puisque dans le cadre de notre émission, émission sur Umberto Eco, c'est important.
Oui, Roman Jakobson, c'est un grand linguiste russe qui avait théorisé les fonctions de la communication, qui avait dégagé 6 fonctions du langage. Et j'ai imaginé, donc, il y en aurait eu une 7e, il en aurait découvert une 7e, mais qui aurait été... une fonction si puissante qui aurait donné tant de pouvoir à celui qui la maîtrise qu'en fait il l'aurait pas révélé au monde. Et en fait toute l'intrigue de mon livre, c'est cette espèce de course-poursuite pour s'approprier cette 7e fonction qui, en gros, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, est la fonction performative, c'est-à-dire c'est la fonction qui accomplit en acte ce qui est énoncé par le verbe.
Et alors, coup de théâtre à la fin, je sais pas s'il faut le révéler.
Oh, c'est pas. Sorti en poche maintenant. ça dépend de lequel. Théâtre voulait.
On découvre pourquoi on a assassiné dans les premières pages de votre livre Roland Barthes.
Ah bah je vous laisse la responsabilité du spoil. Je sais pas ce que vous voulez.
Non, on peut pas. On peut pas. Umberto Eco, dans votre roman, il est à la tête de quelque chose qui s'appelle le Logos Club.
Le Logos Club, oui, absolument. J'ai imaginé cette société secrète, un petit peu inspirée du Fight Club de Palahniuk et de David Fincher, sauf qu'au lieu de se bagarrer avec les poings, on se bagarre avec les mots, c'est-à-dire c'est une société extrêmement pyramidale où on se livrerait à des joutes oratoires dans des caves, et puis donc au sommet de cette pyramide, il y aurait le groupe des sophistes présidé par le grand Protagoras. Et je trouvais que voilà, bon, ça, bon, on peut le dire pour cette émission là. Je trouvais qu'il avait le profil pour faire le grand Protagoras, parce que voilà, il avait la stature, il avait la carrure, et puis surtout dans l'idée qu'à la fin il allait être opposé dans le duel final à Solers. Je trouvais qu'ils incarnaient tous les deux.
Vraiment tout là.
Non, je dis pas qu'ils gagnent, mais je trouvais que. Ils incarnaient une formidable opposition de style, si vous voulez. Voilà, ils partagent tous les deux, bon, une très grande érudition, mais si vous voulez, d'un côté, il y avait le vaniteux français, et puis de l'autre, il y avait cette simplicité de même au niveau du style, il y avait, bon, voilà, c'est-à-dire, Solaire, c'est quand même plus d'une sorte de pensée baroque, un petit peu, qui part dans tous les sens. Lui, c'est son côté structuraliste, fait qu'il était d'une très grande rigueur intellectuelle. Et
même
donc,
il a voulu s'en échapper, justement, en passant dans le roman.
Oui, mais il a gardé, enfin, l'avantage du structuralisme, c'est que ça donne la clarté, quoi. Il a toujours été d'une très, très grande clarté. C'est vrai qu'il jargonnait pas. Et puis il était rigoureux, il était quand même de cette école qui veut que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, quoi, pour aller vite, hein.
Myriam Bozer.
Oui, si vous permettez, je vais passer par l'anecdote pour évoquer cette simplicité et cette humilité du savoir.
Par rapport à Solaire, c'est ça ?
Par rapport à Eco, je ne parle pas de... Je ne me permettrai pas de parler de Solaire.
Quoi qu'il arrive,
voilà.
Non,
mais j'ai été témoin. Donc, il avait fait quelque chose qui est le Graal pour tout écrivain, c'est-à-dire les leçons au Collège de France, et il était très heureux de cela. Et moi, quand je suis allée, il y avait des gens autour. Il était comme, enfin, on l'attendait comme une rock star, quoi. Enfin, il y avait une fille, une italienne, qui disait avec un formidable accent bolognais, ah, ma io so potessi lo toccherei. Si je pouvais, je le toucherais. Je me suis dit, mon Dieu, quelle idée de vouloir toucher Umberto Eco. Bon. Voilà, la leçon se passe, brillantissime, sans notes, il s'amuse, il s'amusait. Oui. Et à la sortie, tout le monde est là, je suis à côté de lui, et vient, alors il y avait Machock qui était là, il vient un jeune homme qui, heureusement, avait un dictaphone. Et il lui dit, « Professore, je suis en train de travailler sur le rôle de la guerre des clés à molette le rôle des clés à molette dans la guerre du Liechtenstein. Bref, Eco réfléchit 3 secondes et en un trait, il lui fait le plan de sa thèse et sa bibliographie. On était tous mais éberlués. C'était complet. Et avec une grande douceur et une grande générosité. Le gars tendait son dictaphone, enfin son travail était fait. Et à la fin, quand il est parti, quand le jeune homme est parti, je lui ai dit « Mais tu as travaillé là-dessus » Il m'a fait cette réponse merveilleuse. Ho letto qualche cosetta, j'ai lu un peu des trucs dessus. C'était ça, Eco.
Bon, ben, on aurait souhaité à tous les doctorants qui triment sur leur thèse de pouvoir rencontrer un jour quelqu'un comme Umberto Eco. Merci à vous deux. Je vous propose d'écouter maintenant un peu de poésie, des lectures d'Yves Bonnefoy qui nous a quittés en juillet dernier par Jacques Bonafé.
Bonjour. Est-ce mouvement ou immobilité ? Reprenons Douve où nous en étions. L'immobilité de Douve, le poème d'Yves Bonnefoy. Je vois Douve étendue. Dans une pièce blanche, les yeux cernés de plâtre, bouche vertigineuse et les mains condamnées à l'herbe luxuriante qui l'envahit de toutes parts. La porte s'ouvre, un orchestre s'avance, et des yeux à facettes, des thorax pelucheux, des têtes froides à bec, à mandibule, l'inonde. On assure, dit Bonnefoy, que le rêve est un langage, et moi j'éprouve surtout qu'il désigne, et parfois même consent, cette parcelle d'or au-delà, que la main parlante veut prendre, cette blancheur qui dissout déjà la syntaxe qui la désire. Aux arbres. Vous qui vous êtes effacé sur son passage, qui avez refermé sur elle vos chemins, impassible garant que Douve, même morte, sera lumière encore, n'étant rien. Vous fibreuse matière et densité, arbre proche de moi quand elle s'est jetée dans la barque des morts et la bouche serrée sur l'obol de faim, de froid et de silence, j'entends à travers vous quel dialogue elle tente avec les chiens, avec l'informe nautonnier, et je vous appartiens par son cheminement à travers tant de nuits, et malgré tout ce fleuve. Le tonnerre profond qui roule sur vos branches, les fêtes qu'il enflamme au sommet de l'été, signifient qu'elle lie sa fortune à la mienne dans la médiation de votre austérité. Vrai nom. Je nommerai désert ce château que tu fus, nuit cette voix, absence ton visage, et quand tu tomberas dans la terre stérile, je nommerai néant l'éclair qui t'a porté. Mourir est un pays que tu aimais, je viens, mais éternellement par tes sombres chemins. Mes amis, cette terre va si noire, et même si immonde si souvent que je ne sais que dire. Nous reprenons le texte Ensemble encore, publié en 2016, au Mercure de France. Cet arbre beau, mais on jette un enfant au fond d'un puits. Cette ligne d'écume, parler, trahir, trahir, puisque c'est continuer de vouloir vivre, heureux même parfois. Et ces instants ont beauté, n'est-ce pas ? Belle la lumière qui enveloppe le soir ces amandiers que nous avions plantés. Ah, mon ami, je crois, presque je sais, que la beauté existe et signifie. Je crois qu'il y a sens encore à faire naître. J'atteste que les mots ont droit au sens, qu'il est difficile pourtant de faire de cette loi de la pensée, qu'il semble naturel d'en avoir honte. Ce dernier texte est issu de « Ensemble encore », publié au Mercure de France en 2016.
Voilà, Jacques Bonafé qui lisait des textes d'Yves Bonnefoy.org à cette compagnie des auteurs consacrée depuis lundi dernier à Umberto Eco et dont vous pouvez retrouver tous les épisodes en podcast. Merci à vous Myriam Bouzaer, merci à vous Laurent Binet de nous avoir permis d'explorer les langues d'Umberto Eco. En conclusion à cette série, Laurent Binet, votre ouvrage La septième fonction du langage est toujours disponible chez Grasset et en livre de poche. Bon, maintenant qu'on a raconté la fin... Je ne sais pas si les auditeurs vont vouloir le lire, mais si, bien sûr qu'ils vont le vouloir. Quant à vous, Myriam Bouzaer, un recueil d'essais d'Umberto Eco intitulé « Construire l'ennemi et autres récits occasionnels » est à paraître en octobre dans votre traduction au livre de poche. «
Cette émission était réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Bruno Gagnère-Fontanille. Et à la préparation, comme d'habitude, Didier Pinault, Corinne Amar, Anne-Vanessa Prévost et Eva Lesseau. Demain, nous changeons d'univers littéraire avec un nouveau format dans la compagnie des auteurs. Nous avons proposé à l'écrivain et universitaire Éric Marty de sélectionner et commenter des textes littéraires. Il a choisi la thématique de la nudité. Vous l'entendrez qu'il l'abordera. Il l'abordera à partir de textes de Victor Hugo, Zola, Gide Bataille et Milan Kundera. Mais tout de suite, sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Nicolas Martin pour la méthode scientifique.